RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Daniel Riolo avec Jonathan McCarty et c'est le gang des cols roulés. Branchez-vous sur BFM Sport si vous ne pouvez pas voir ça. Simone Rovere, la classe italienne.
Ciao,
comment va?
Buon anno,
comment ça va?
Très bien.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018, Simone?
À moi, personnellement?
Ouais, bien sûr, ouais.
De quand même bosser cet été,
Cyprien.
De
trouver
moins malade.
Que l'Italie sur la Coupe du Monde.
La santé. De trouver un moyen de bosser cet été.
Ouais, j'ai avoir moins de grippe. Ouais, non, là, c'est cet été. J'espère. Qu'est-ce que tu parles de cet été? Il faut arrêter avec ça.
Et niveau foot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Que la Juve gagne la Ligue des Champions.
Ah ouais?
Je serais très content.
Ah, t'es Juventino, toi, finalement?
Non, je dis pas. Mais moi, je souhaite ça. Ça, en termes de tous les débats, les deux finales ratées, etc., blablabla. Et Buffon va continuer encore un an, comme il a dit hier à la Gazzetta dello Sport, que s'il gagne la Ligue des Champions, il va continuer à jouer la Coupe du Monde de club. Donc, c'est très beau. Comme il ne peut pas jouer la Coupe du Monde réelle, il va jouer celle du club. Je souhaite.
Voilà. La Juve qui gagne la Ligue des Champions, tu crois ça, Daniel?
Non, désolé pour Simone, mais je pense que j'ai du mal à y croire.
Je donne quelques résultats du soir. L'affiche de la 22e journée de Première Ligue de 2 entre Arsenal et Chelsea. La Juve, et on va en reparler dans quelques instants avec toi, Simone, a battu le Toro en quart de finale de la Coupe d'Italie. C'était le derby, victoire 2-0. En Espagne, 8e de finale aller de la Coupe du Roi, l'Atlético a battu Lleida 4-0. Séville est allé gagner 2-0 à Cadiz. Un partout finalement entre Las Palmas et Valence. Au Portugal, ça joue entre Feirense et le FC Porto. Et Porto mène, ça y est, 2-1 face au Feirense à Santa Maria da Feira, bien sûr. Et le Sporting mène dans le derby de Lisbonne, 1-0, on joue depuis une bonne demi-heure. Voilà, un but qui a été validé d'ailleurs par la vidéo, sachez-le. Voilà, il y avait un doute quant à une position de hors-jeu. Et finalement d'ailleurs, c'est passé. Tiens. Voilà.
La vidéo protagoniste même dans la fête en Italie, hein, même ce soir dans les derbys de Turin.
Vas-y, raconte.
Ben, derby de Turin, faute probable sur un joueur de Torino à la récupération de l'action. La Juve continue, marque un but Mandzukic. L'arbitre va voir avec la vidéo, considère qu'il n'y a pas faute, Mihailovic furieux, tous les Torino furieux. Mais c'est beau, c'est sympa, c'est agréable, ça donne un petit piment en plus au football. Moi, je suis toujours à... j'aime beaucoup ça. Et je vous raconte une petite anecdote.
Ah.
Derby de Milan,
ouais.
J'étais au stade, c'était une soirée vraiment nulle à niveau football, mais l'ambiance d'un derby, c'est toujours agréable. Et quand ils ont annulé les buts de l'Inter avec la vidéo, t'as vu les 45 000 supporters de Milan qui ont fêté ça comme si c'était
un but
marqué. Et c'est un peu.
Bah, tu vois, on va avoir d'autres émotions, Daniel, du coup, dans les stades maintenant. Les célébrations des buts annulés.
Tu sais, les émotions bon marché, ça a toujours existé. Hein.
Les célébrations vidéo.
Il y en a au Bois de Boulogne.
Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui pleurent devant le Grand Bleu aussi. Hein. Tu sais, les émotions de bazar.
Attends,
ça
t'as
a toujours
pas pleuré
existé.
Devant le Grand Bleu.
Non, j'ai plus l'habitude de m'émouvoir pour des choses importantes. Et des grands films.
Oh putain, c'est beau. Excusez-moi pour le c'est beau. Tu parles d'un grand bleu. On va aller voir un grand joueur. Aux yeux bleus, quant à lui, Jérôme Roten a eu la chance de commenter le match entre Arsenal et Chelsea. Il est toujours à l'Emirates, Jérôme Roten. Alors qu'il est beau avec son béret, branchez-vous sur BFM Sport. Bonne année, mon Jérôme.
Bah, meilleur vœu à tous, hein.
Il est où le béret? Je le vois pas.
Qu'est-ce
moi,
qu'on peut te souhaiter, Jérôme?
Bah, il est là, le béret, regarde. Bon,
celui-là,
il vaut cher, Daniel.
Hein. Mais...
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018, bah, Jérôme?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, de toujours bonifier autant l'after que je vais faire depuis les
débuts. Bah, c'est pour ça que t'es là, mon gars. T'es là pour bonifier l'after. Alors, t'as assisté à ce match complètement fou entre Arsenal et Chelsea. Arsenal qui a marqué le premier grâce à Wilshere à la 63e. Égalisation sur Peno d'Hazard 4 minutes plus tard. Alonso donne à l'avantage à Chelsea à la 84e. Et dans le temps additionnel, Bellerin égalise pour les Gunners. Alors dis-nous tout, il était comment ce match? Nous à la télé, en tout cas devant notre télé, on a trouvé ça génial, grosse intensité.
Ouais, grosse intensité, c'est ça qui est étonnant, parce que tous les entraîneurs se plaignent à juste titre de l'accumulation des matchs comme ça, jouer tous les 2-3 jours, et arriver à faire un match d'une telle intensité, et je parle des 22 acteurs, hein, parce que il n'y a pas à retirer une équipe par rapport à l'autre. Vraiment, ça montre cette qualité qu'il peut y avoir dans ces deux clubs. Après, le scénario... je pense qu'Arsenal, au bout d'un moment, a bien maîtrisé le match et puis ils se sont fait surprendre par un Eden Hazard qui a toujours été dangereux, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, en obtenant ce penalty. Derrière, ça a rechangé la physionomie du match et Chelsea a pris l'avantage logiquement. Et je pensais qu'ils avaient fait le plus dur et il y a eu un sursaut d'orgueil sur les dernières minutes. Et Arsenal a rien lâché, même s'ils étaient cuits à la fin, et ils ont arraché cette égalisation par un beau but de Bellerin. Mais à l'arrivée, Chelsea aurait pu, dans la minute suivante, reprendre l'avantage si Morata était un peu plus inspiré ce soir.
Alors nous, l'impression qu'on a, et c'est vrai qu'on en parlait ici également sur RMC, mais on a l'impression que Morata, il a un peu bouffé la feuille quand même.
Ouais, Morata était en dessous. Du côté de Chelsea,
il demande tellement courir que le mec perd en lucidité.
Ouais, mais à l'arrivée, tu regardes Daniel, sur la deuxième mi-temps, il a pas beaucoup fait d'efforts dans le repli défensif. Il a plus attendu les ballons, mais moi je pense que son mauvais match il y a 2-3 jours contre Stoke à la maison, plus raté une grosse occasion d'entrée de match. Oui, je pense qu'il a gardé cette occasion dans la tête tout au long de la rencontre et il a un petit peu déjoué par moment. Alors après. Voilà, on va pas lui jeter la pierre. Il a fait des belles choses depuis qu'il est arrivé. Là, ce soir, il était un petit peu en dedans, comme Moses sur le côté. Les deux joueurs à retirer du côté de Chelsea, du côté négatif, c'est vraiment Moses et Morata. Après, il y a quand même des valeurs sûres. Hein. Kanté a fait un gros match dans le milieu de terrain. Eden Hazard, comme à son habitude, a été exceptionnel. Et puis un Courtois dans les buts qui est monstrueux.
Merci Jérôme, merci beaucoup. Rentre bien, Jérôme. Bah,
merci à vous.
Bah, à demain, alors.
Demain, hein, en direct. Hein, je serai là pour la reprise.
Ah, bah ça va être encore meilleur, alors, Jérôme.
Ah, bah oui, certainement.
Allez, bonne soirée, merci.
Je vous embrasse.
Bisous, bisous, ciao, Jérôme. Rentre bien. Tiens, on parlait d'arbitrage vidéo il y a quelques instants. Ça joue toujours entre le Benfica et le Sporting, et l'arbitre vient de demander la vidéo pour une main dans la surface.
De contre-un.
Ouais, il joue là-bas,
oui, et grosse cote hein, au Sporting.
Ah bah, parce qu'il est bon.
C'est
hein.
Pas quoi, Tess.
Il est pénal ou pas avec la vidéo là.
Il n'avait pas intention de faire mal de la part de Fabio Quintana.
Ah, très bien. Pourtant, il touche le ballon de la main.
Oui, mais c'est l'intention.
Alors, c'est quoi la justice dans
l'affaire ? C'est l'intention qui compte, c'est l'interprétation de l'arbitre. Donc, tu vois, une preuve encore que c'est
l'intention.
Une preuve encore que c'est bien l'arbitre qui prend la décision. Tiens, justement, puisque tu avais ton débat, ton avis tranché sur la vidéo, et vous savez, cette sanction qui pourrait arriver potentiellement a posteriori à l'encontre de Mariano qui a simulé. Qui a exagéré son geste.
C'est postérieurement, ouais, c'est a posteriori, ouais.
Et voilà, c'est a posteriori, bien entendu, en tout état de cause. On a Ray qui nous a appelé au 3216 et qui voulait s'exprimer sur
les. C'est Ray Domenech.
Ou Ray Sugar. Ray Sugar quelque chose.
Ouais, Sugar. C'est quoi le diminutif? C'est un diminutif ou c'est vraiment ton nom?
C'est un diminutif, oui, Ray.
Donc t'es Raymond alors?
Non, c'est Ryan.
Ah, ouais, c'est marrant.
Ryan?
Ouais. Tom Geeks, ton joueur préféré.
D'accord, ok, ouais. Comme Ryan.
Comme
le
qui
le
comme
de Ryan Babel. Stéphane Rangé, que j'embrasse également.
Ryan Babel. Alors,
tiens, oui, bonne année, Ray.
Bonne année, messieurs.
C'est pas
bonne année,
fan
merci,
de Ryan Babel.
Bonne année à vous.
Ah, tu crois?
Ouais. C'est R-A-Y ça ou R-Y-A?
R-A-Y.
Aïe. Ça va pas être possible, du coup. Pas, non, j'en sais rien.
Non, mais non, mais du coup, c'est un prénom d'origine maghrébine, du coup. C'est ça, non?
Non, ça c'est mon diminutif, mais sinon c'est Ryan comme le soldat.
C'est Ryan comme le soldat Ryan.
C'est un américain. Ok, bon, peu importe.
Bon, ton avis alors, Florent, on avait le débat sur la vidéo tout à l'heure, voilà, débat animé.
C'est pas Ray, c'est Ray.
Ah oui, non, ouais, mais non, c'est
mais
Ray.
Non, il a dit Ray.
T'as chier, je comprends plus rien.
Bon, c'est comme vous voulez, les gars.
Bon, Ryan.
Bon, Ryan, fais pas chier, on va appeler Ryan, on va taper Ryan. Alors, quel est ton avis, toi, sur la vidéo alors?
Mais quel rapport avec la vidéo, on parlait pas de ça?
Bah, on en est venu, on a débordé là-dessus et apparemment le standard a explosé derrière. Donc,
ça fait une demi-heure que j'attends au téléphone.
Oh bah, excuse-moi alors.
En plus, j'ai pas parlé de la vidéo, je parlais de la convocation de Mariano.
Oui, ben voilà, en fait, je suis un peu de l'avis.
Vas-y, Ryan, on va t'écouter.
Ouais. Je suis un peu de l'avis de Daniel, mais en fait, j'ai toujours été mitigé sur la question, comme beaucoup de gens. Et en fait, le problème, c'est que si on regarde avec nos yeux de supporters, évidemment, on est pour la vidéo parce qu'on se sent toujours lésé en tant que supporter. N'importe quel club qu'on supporte. Et par contre, je suis d'accord avec Daniel, on perdrait sur la beauté du football et sur le côté humain du sport. Donc la seule décision, enfin la seule chose qui me paraît légitime en tant que supporter pour m'apaiser dans mes mon sentiment d'être lésé parfois.
Mais si t'es apaisé, tu vas te faire chier. C'est ça qui fait que la grandeur du foot, c'est que tu sois pas apaisé. Pourquoi tu veux être apaisé?
Attends, laisse-le finir.
Non, si tu veux, c'est pour pas avoir le sentiment qu'il y ait, si tu vas sur des forums de supporters après les matchs, t'as toujours l'impression que, qu'il y a une trahison, un complot, tu sais, tu connais les supporters.
Mais si le supporter a un minimum de cerveau, il voit bien que celui de Lyon se plaint, celui de Marseille se plaint, celui d'un autre club se plaint, donc puisque tout le monde se plaint, ça veut dire que ça sert à rien de se plaindre.
Par exemple, tu regardes les stats des pénalties là qui est sorti récemment sur les forums.
Mais quand est-ce qu'on va apprendre que c'est des conneries ça?
Alors moi je vais
vous voulez pas apprendre que c'est des conneries,
c'est concret, c'est concret.
Vas-y, Ryan.
Donc l'idée ce serait, je me dis que au lieu de développer l'arbitrage vidéo, ce serait que l'UEFA développe un système d'arbitrage d'arbitres étrangers. Qu'en France ce soit pas des arbitres français, parce que évidemment chaque arbitre aime le foot et a commencé par supporter un club, que ça joue pas.
Mais t'imagines, tu vas chercher le complot là, dire que le mec dans son passé il a été soit putain, mais les gars, vous voulez pas prendre du recul, mais arrêtez un petit peu.
Alors tu sais qu'il y a une autre chose également. Je sais qu'au Portugal beaucoup utilisent l'argument de la vidéo dans ce sens-là. Alors surtout en ce moment, d'ailleurs, ça faisait partie de la vie tranchée, on aurait très certainement pas le temps de le faire. Je sais pas si vous avez lu un peu ce qui se passe au Portugal en ce moment. Il y a des présumés emails appartenant à des dirigeants du Benfica qui sont accessibles sur Internet. C'est des gigaoctets qui sont téléchargeables. Et à l'intérieur, il y a des échanges avec des responsables de l'arbitrage également. Il y a un énorme climat de suspicion autour des arbitres et beaucoup voient en la vidéo une façon à ce qu'il y ait, et là pour le coup je vais reprendre le mot que tu utilisais tout à l'heure, plus de transparence de la part des arbitres. Bien que, et ça c'est un argument qui peut être employé par les anti-vidéos aussi, l'usage de la vidéo et l'appel à la vidéo est de toute façon à l'interprétation de l'arbitre et la décision qui en viendra derrière aussi.
Bien sûr.
Mais c'est vrai
ou
que
du
beaucoup...
mec dans le bus qui peut subir exactement les mêmes pressions si tu vas par là.
Exactement.
Tu développeras toujours, si tu veux, de la suspicion. Et tu développeras à chaque règle, il y a enculade de la règle. Donc tu pourras les transformer dans tous les sens, tu les auras et tu finiras par avoir les soupçons. On va juste mettre un pansement pendant quelques années en croyant qu'on a réglé les problèmes.
Mais si un arbitre valide une décision
Ryan,
à la vidéo qui
Ryan,
est visible.
Attends, moi je veux parler à Ryan.
Oui.
Ryan.
Daniel.
Les sites débiles qui font les inventaires des fautes et des pénaux et tout. Mais comment veux-tu accorder un minimum de crédibilité à ce truc-là? Tu n'es pas dans le contexte du match. Tu sais pas combien de fois les mecs sont entrés dans la surface de réparation. Tu sais pas quels sont... Mais ça n'a pas de sens. Il faut avoir
quelque chose de concret à un moment donné, Daniel. Si tu débats à chaque fois sur des ressentis, évidemment, tu peux pas avoir de notion de vérité.
En quoi tu vas avoir une vérité?
Parce que
Marseille a 5 fois moins de pénalty que Lyon. Mais c'est quoi la vérité?
Ben oui, regarde les stats.
Ok, mais c'est quoi la vérité de ça?
Non, parce que tu te dis, c'est bizarre. Quand tu es supporter, tu as l'impression qu'il y a des pénaltys.
Mais ils sont entrés 10 fois moins dans la surface que les Lyonnais.
Mais oui, mais par rapport à Guingamp, qui a deux saisons de moins dans les stats, qui est au-dessus de Marseille. Avec deux saisons en Ligue 2 qui sont pas comptabilisées, ils ont plus de pénaux que Marseille.
Et donc ça te conduit à penser qu'il y a un complot?
Non, mais tu te dis en tant que supporter, c'est pas normal. Tu dis que c'est pas normal. Que Guingamp et Lorient aient plus de pénaux que toi. En tant que supporter, c'est légitime.
Franchement, Ryan, je vais te dire, je sais pas quoi te répondre. Je suis sans voix.
Moi, quand j'entends ça, je suis sans voix, en fait.
Je sais pas quoi penser de ça.
Je te dis, Daniel, je te dis pas que c'est un complot. Ce que je te dis, c'est la sensation qu'ont les supporters. N'importe quel supporter.
Ah, tu dis pas, de Lorient, tu l'entends, Ryan.
Bien sûr.
Écoute,
c'est pour ça que je dis que la vidéo.
Je comprends pas de quoi tu parles, en fait.
Je suis contre la vidéo, mais le problème, c'est que tu vas toujours avoir ce sentiment-là chez certains supporters, et pour pouvoir calmer ce sentiment, la solution, moi, je voyais.
Mais franchement,
pourquoi le calmer? Pourquoi vouloir le calmer?
C'est pas pour les supporters, ça fait vivre des forums,
ça fait poster des tonnes de messages sur les forums, ça vous occupe.
C'est pas parce qu'on parle que tout c'est intelligent. Sur la plupart des forums, réseaux sociaux et tout, c'est l'expression de la bêtise.
Et vu la frustration et le sentiment d'injustice, ça fait partie de la vie et ça fait partie du football. C'est vrai que le football, c'est beau.
Ils font pression sur le président pour que le président fasse des comme il a fait Héros récemment, et que là ça a répondu et tout le monde après a dit c'est des conneries, mais parce qu'ils ont la pression des supporters derrière.
Ça, on l'a dit.
Bon,
écoute, on vous mettra pas d'accord. Merci en tout cas, Ryan, de nous avoir appelé.
Merci à vous.
Ah, c'est même pas que je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas ce qu'il dit, quoi.
Mais si on va revenir sur le match entre Arsenal et Chelsea, on a Alan, supporter d'Alexandre Lacazette de l'Olympique Lyonnais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Alan.
Bonsoir.
Ça va Alan? Bonne année, mon gars.
Ça va, merci beaucoup.
Alan, toi tu voulais revenir sur la prestation d'Alexandre Lacazette. On rappelle qu'il y a eu deux partout entre Arsenal et Chelsea.
Oui, en fait, je trouve vraiment, en fait, c'est un joueur en fait qui nous a beaucoup apporté à Lyon. Et là, actuellement, on peut dire qu'il a un avancement au niveau de sa carrière qui est quand même resplendissant. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'entends René qui disait, oui, il est parti au bon moment de Lyon. Et au contraire, moi, je trouve justement qu'il est parti exactement au moment où il commençait à être monstrueusement bon au sein de l'équipe de Lyon. Donc après, je trouve que on a des joueurs là, par exemple, qui sont quand même très motivés, qui sont jeunes, qui ont envie d'aller dans le d'aller droit au but, et c'est extrêmement bon de voir ça dans des, enfin c'est bon de voir ça dans une équipe anglaise qui est quand même assez réputée, qui quand même maintenant aujourd'hui a accueilli Lacazette, qui est quand même un joueur extraordinaire, et je pense vraiment qu'il est on dirait que là-bas il est constamment en progrès, donc c'est ça qui est impressionnant, et l'équipe aussi. Donc je trouve qu'il va,
si Lacazette est extraordinaire, je sais pas, ils sont quoi, les autres, Agüero, Cavani, tous ceux qui parlent des buts,
ils sont très bons,
mais l'autre est extraordinaire, mais d'accord.
Le sens du propos de tout à l'heure était de dire que Lacazette, même s'il était bon et qu'il faisait le taf avec Arsenal, chose que et Daniel et moi avons dit, c'est que il semblait pas non plus être hyper installé, être hyper épanoui dans l'équipe.
C'est ça. Il faut lui laisser le temps, hein. Les mecs. Mais attendez, il arrive dans un.
Mais c'est même pas un reproche. C'était, si t'avais écouté jusqu'au bout, t'aurais entendu que c'était même pas un reproche vis-à-vis de la Gazette, mais c'était un problème où le collectif n'allait pas.
Le supporter lyonnais, soit tu fais des sacrifices humains, tu te tailles les veines. Soit tu n'es jamais assez gentil pour les Lyonnais. De toute façon, ils ne te comprennent pas. C'est comme ça.
Faut pas faire des généralités.
Même quand tu dis qu'il fait un bon match, même quand tu dis qu'il fait le taf et tout, c'est pas assez.
Le Riolo de 2018 sera mesuré.
Lacazette est le meilleur attaquant du monde pour les supporters de l'OL.
Daniel, j'ai pas dit ça.
Mais en fait, ton intervention est totalement avec Lacazette à Lyon.
Non, ce que tu as dit, c'était entre propos.
Combien de campagnes européennes vous avez gagné, vous avez fait avec Lacazette?
Non, mais attends, pour l'instant, moi je
ne sais pas savoir combien de titres vous avez gagné avec Lyon.
Il joue pas tout seul, Daniel, c'est n'importe quoi.
Daniel, je suis bien d'accord.
Mais avec la génération extraordinaire des Lyonnais.
Mais lui, tu parles de Lacazette. Là, moi j'ai un problème.
Comme ils vendent,
là où j'ai un problème,
comme c'est les meilleurs joueurs du monde. Je veux savoir.
Le
problème récurrent que j'ai avec notre auditeur.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a des matchs?
Pourquoi? T'es content? En fait, t'as dit Lacazette. Non, le problème, ça c'est vraiment. J'ai toujours du mal à comprendre. Tu dis Lacazette est parti au bon moment parce qu'il est parti au moment et commençait à devenir monstrueux. Bah si justement il commençait à devenir monstrueux, t'aurais pas aimé qu'il reste à Lyon et
non,
plus
non,
peut-être.
Non, le supporter lyonnais veut que son joueur soit vendu, c'est important.
Mais on a déjà parlé.
Quand il joue bien dans un
état, c'est pas grave, t'as une jolie nana, t'es content de la casser. Le supporter lyonnais, il a une gonzesse,
si elle se fait baiser par le voisin, c'est pas grave. Elle est magnifique. On l'a eu. Moi je l'ai pas fait jouer, mais si le voisin l'a fait jouer, c'est bien. Il est content à Lyon, il a vendu, c'est très bien, c'est comme ça que ça marche là-bas, la secte OL, c'est ça en fait, laissez parler.
Laissez parler Alan, vas-y.
Alan. Moi je défends pas, je parle simplement des performances en ce moment dont Lacazette fait preuve.
Oui, bah nous on a dit qu'elles étaient bonnes et qu'ils faisaient le taf et qu'il était,
qu'on se demandait pourquoi
il était pas épanoui, voilà,
c'est tout, le collectif tournait tout.
Vous dites qu'il est pas installé.
Mais c'est pas de sa faute. Laissez-le parler, les gars. Arrêtez de couper là. C'est inaudible.
Oui, il faut juste qu'il dise pas des trucs qu'on n'a pas dit.
Non, mais qu'il dise ce qu'il veut. Voilà, il appelle, le mec, il attend, il dit ce qu'il veut. Il est là pour ça. Vas-y, Alan.
Moi, je dis simplement, il était simplement agréable pour un jeune supporter de voir actuellement un joueur qui a joué au sein de notre club évoluer dans un club aussi prestigieux et donner de lui-même pour pouvoir arriver au top. Parce qu'il faut dire quand même que le niveau là-bas en Angleterre. Je pense qu'il est vraiment supérieur à celui qui est demandé à Lyon.
Tu aurais été content qu'il joue au PSG alors?
PSG, bah, oui,
je sais pas, mais tu veux qu'il aille dans des clubs qui jouent le haut niveau, tout ça.
Mais le PSG, c'est un club extraordinaire aussi. Actuellement, personnellement, le PSG, j'adore ce club parce que c'est également un club où les gens jouent au football. Il y a des joueurs qui sont jeunes, qui sont compétents et qui nous donnent qui nous montrent vraiment du spectacle. C'est ça qui est très intéressant. Mais là, actuellement, voyant Lacazette à Arsenal, et ben moi je suis très content de voir qu'il y a encore des jeunes mecs qui viennent de Lyon qui sont capables de percer dans le foot et de finir dans des grands clubs comme Arsenal. C'est tout ce que je voulais voulais préciser parce que on n'arrête pas de dire en ce moment, moi j'entends beaucoup de gens dire, vous savez, oui, il est pas parti au moment, mais bien sûr que si, dans la mesure où un mec
dit, en plus on a précisé, peut-être pas au bon endroit.
Oui, ben mais
bon, on parle
d'un club historique, les gars. On parle de Arsenal. C'est un club, c'est une école.
Qui conjoncturellement n'est pas,
qui est pas au top en ce moment.
Et moi, excuse-moi, moi ce que je préférerais, cher ami. Et moi ce que je préférerais, c'est que Lyon devienne un grand club. Et que Lyon soit en Ligue des Champions tous les ans. Moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi à Lyon vous avez de l'ambition pour les autres et pas pour vous.
Mais attends,
je veux, c'est que Lyon, qui est un club qui a été en expansion pendant des années, soit en Ligue des Champions chaque année, garde ses joueurs, en recrute, et gagne, soit en Ligue des Champions et ne termine pas derrière des équipes aussi, à sa porte. Des fois, je me le demande, moi, tu vois. Parce que c'est tout le temps chercher une excuse parce que machin nous a battu. On gagne pas de titre parce que le PSG a trop de blé.
Mais moi,
j'ai parfois l'impression d'être beaucoup plus exigeant avec l'OL que les Lyonnais eux-mêmes.
En fait, il y a un juste milieu, Alan. Il y a un juste milieu entre se dire, ok, conjoncturellement, l'Olympique Lyonnais n'est pas en mesure de garder Alexandre Lacazette pour vivre l'histoire jusqu'au bout avec lui. Et de se réjouir, comme tu le fais, de le voir réussir sous d'autres couleurs. Je pense que c'est quand même un juste milieu.
Le mot de la fin, Alan, vas-y.
Moi, simplement, je voulais vous dire une chose, les gars. Simplement, là, on a un jeune joueur qui arrive dans un grand club et je pense qu'il va évoluer et que l'équipe également va évoluer.
Arsenal, un grand club. Excuse-moi, moi j'aurais envie que Lyon ne dise pas qu'Arsenal est un grand club.
Tu peux pas dire ça. Pour Tolisso au Bayern, c'est plus d'accord que
ouais, d'accord. Mais pour la Casette,
allez, on arrête là, les gars. Alan, merci de nous avoir appelé.
Je vous en prie, les gars.
T'as foutu un beau bordel.
Vas-y, Alan.
Lyon, ça doit vouloir rivaliser avec Arsenal, quoi. Je sais pas, merde.
C'est Europa League, les deux.
Messieurs, dans quelques instants, on va filer en Italie. On va parler de la Coupe d'Italie. La Juve qui a remporté son derby face au Toro et on en parle juste après ça et on va se calmer aussi parce qu'on comprend rien.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan McCarty, avec Daniel Riolo, Simone Rovera est toujours avec nous. Simone, ça va Simone?
Très bien.
T'as passé une bonne soirée, toi c'était bien le derby. On rappelle les résultats d'ailleurs de la Coupe d'Italie, quart de finale, Juve-Toro 2-0 et hier l'Atalanta a battu le Napoli 2-1. Il était bien ce derby de Turin ou pas?
C'était bien quand tu as une équipe qui survole sur l'adversaire, qui domine du début à la fin, donc tu vois du beau football. Mais c'était un peu triste de voir un Torino qui avait rien à voir avec ce que le Torino incarne comme esprit guerrier, combatif, le cœur Torino, il cuore Toro, ces deux mots qui sont toujours dans la tête des supporters de Torinois, c'est-à-dire jouer avec le cœur, c'est donner au fond, c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Et donc c'est un peu un dommage parce que c'était même pas la meilleure des Juves, c'était la Juve B. Et elle a tranquillement eu raison de Torino. Et j'ouvre en parenthèse sur Naples, parce que Naples, hier, avec une équipe B, n'a pas réussi à faire la même chose face à l'Atalanta. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions pour la suite du championnat.
Comment? Alors, on va d'abord rester sur le derby de Turin. J'ai juste d'abord une question qui va peut-être vous paraître un peu débile, surtout à toi et à Daniel qui connaissaient bien le foot italien. Elle est vraiment aimée, valorisée, la Coupe d'Italie ou pas? Par rapport au championnat, par exemple?
Non. Non, la Coupe d'Italie c'est quelque chose qui est toujours mal organisé, toujours maltraité, toujours mal aimé par les clubs, souvent aussi par les supporters. Pour vous dire, hier il y a eu une très bonne affluence à Naples pour la Coupe d'Italie, c'était 20 000 spectateurs, c'est-à-dire très bonne sur la moyenne des matchs de Coupe d'Italie à Naples. Ils jouent tout, comme les clubs arrivent, les grands clubs entrent en fin novembre, décembre, et jouent en décembre, janvier, déjà c'est les soirs, les stades sont un peu ville, c'est dans la semaine, c'est pas quelque chose qui est, il y a souvent des remplaçants, 6-7 remplaçants par équipe, donc c'est pas bien valorisé, surtout parce que toujours à domicile de l'équipe plus forte. Il y a un ranking de classement de la saison dernière, de la saison d'avant, et qui a plus haut les rankings joue à domicile. Je pense que le mieux serait quand même de voir le contraire. Quand il y a eu Inter Pordenone, l'équipe de 3e division, imaginez jouer à Pordenone et pas San Siro. Tu avais une sacrée ambiance et pas une San Siro à moitié vide.
Alors, elle vaut quoi cette Juve, justement, alors? Ce que tu disais, ils ont fait tourner finalement, c'est ça, face au Toro.
Bah alors oui, il y avait Sturaro, Rugani, Azamoa, Marquisio, Douglas Costa qui a marqué les premiers buts. Donc il y avait Higuaín sur les bancs, Kedira sur les bancs, Benatia qui en ce moment est un titulaire indiscutable sur les bancs, Alexandre sur les bancs, Chesney qui est un peu titulaire aujourd'hui parce que Buffon est blessé, mais lui aussi c'est remplaçant. Et je vois une force totale de cette Juve, même face à des adversaires qui en théorie devait avoir une vraie envie de jouer un match, un derby confrontation directe, élimination directe. Donc si Torino éliminait la Juve, je dis pas qu'elle sauvait sa saison, mais arriver en demi-finale de Coupe d'Italie face à l'Atalanta avec une vraie espoir d'aller en finale aurait été extraordinaire pour Torino. Par contre, j'ai rien vu du Torino que j'aime voir. Et je pense que Mihajlovic n'arrive plus à faire passer son message. Un entraîneur très charismatique, comme était comme joueur, comme entraîneur, il a totalement perdu les contrôles émotifs de l'esprit de cette équipe.
Alors c'est Douglas Costa et Mandzukic qui ont marqué pour la Juve.
Torino qui avait blessé Belotti, qui avait blessé Yaïc, donc il avait aussi des excuses. Mais comme j'ai dit, la Juve avait beaucoup de remplaçants.
Et hier, il y avait donc le match entre l'Atalanta et Napoli. Victoire de l'Atalanta à San Paolo. Ça, c'est une surprise quand même, non?
Oui et non, parce que quand même, les parcours de Sarri dans les coupes, que ce soit Europa League, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Coupe d'Italie, n'est pas toujours extraordinaire. Il n'est jamais arrivé au fond. C'est quelque chose de dont on est habitué aujourd'hui.
Il s'en fout,
les joueurs s'en foutent. Lui, Sarri l'a dit, il s'exprime, il dit il est désolé de voir ça, que ses joueurs pensent plus au championnat qu'à la coupe. Et même en Ligue des Champions, on a vu ça. Les risques, c'est que si avec une saison comme ça, avec un bel effectif, avec des bons joueurs, avec encore une compétition importante comme l'Europa League, ou sincèrement, je sais pas combien de clubs bien meilleurs que Naples il y a, l'Atlético, oui, peut-être, mais pas énormément. Si tu commences à renoncer maintenant pour gagner les titres, si tu gagnes pas les titres, tu jettes à la poubelle toute la saison. L'important, c'est gagner quelque chose. Moi, la chose que je comprends pas en Italie souvent, c'est que on considère qu'il y a que le championnat. Par contre, gagner un titre, c'est casser la dynamique de la Juve. La Juve a fait les trois dernières doublées, coupe et championnat. C'est la seule équipe qui gagne. Si tu gagnes face à cette Juve, tu as déjà fait quelque chose. Gagner les championnats, les titres en Serie A, c'est extraordinaire pour Naples, vu les budgets, vu la difficulté un peu à gagner depuis le départ de Maradona, puis quand j'ai aimé gagner un gros titre. Mais sincèrement, renoncer à certaines compétitions, même la Ligue des Champions où tu vas pas gagner, mais quand même c'est un spectacle à jouer, c'est la compétition la plus importante.
Ils s'en foutent aussi, hein.
C'est quand même décevant.
Alors les demi-finales, ce sera fin janvier. Ça se joue en deux manches, hein, d'ailleurs. Ouais. Il y a match aller et retour. Alors du coup, on aura Juve, Atalanta et Milan Lazio. Un mot quand même sur cette Atalanta. Tu le disais, qui a sorti le Napoli, alors qu'il avait peut-être fait beaucoup tourner. Ils ont tapé Lyon en Ligue Europa. Elle est surprenante, cette équipe. Toi, Daniel, je sais que t'en as pas mal parlé au cours de la saison dans l'after également. Elle est séduisante, hein. Ça joue bien. Il y a pas forcément énormément de moyens.
Bah si. Et c'est une équipe qui a une mentalité qui.
Ah, moi, je croyais qu'il fallait avoir beaucoup de moyens pour bien jouer, moi.
Ah non, c'est José qui dit ça.
Ah, je sais pas, moi. C'est une équipe. Bah, je sais pas, c'est ce qu'on entend en France tout le temps.
C'est
une équipe
qui, cette année, joue d'une façon aussi, je pense, intelligente. C'est-à-dire.
Qui ont perdu beaucoup de défenseurs cet été.
Oui, mais ils ont perdu des défenseurs, ils ont perdu des joueurs qui sont partis même à la. Ils ont perdu en janvier dernier Gagliardini, ils ont perdu Kessi cet été. Ils vont perdre encore d'autres joueurs.
Le mec qui part au Milan, là, Conti.
Conti. T'as des joueurs qui ont fait la grève, comme Spinazzola qui voulait aller à la Juve, donc pour les premières 2-3 semaines, il n'était pas là. L'Atalanta veut vivre son rêve européen. C'est une chose très beau en Italie. Souvent, on a vu des équipes qui étaient en Europa League et pensaient, bah, moi, je veux arriver troisième, je vais à la Ligue des Champions. Donc l'Europa League, c'est un peu une compétition qui j'oublie. L'Atalanta veut vivre ses rêves et veut aller loin en Europa League. Et je pense que c'est la meilleure promotion du football italien, avec bien sûr la Juve, la Ligue des Champions, la Roma qui fait des bonnes choses. Mais c'est une très belle promotion de voir une petite équipe avec pas grand moyen qui va loin en Coupe d'Italie et en Europa League. J'espère de le voir quand même aller encore plus loin, même s'ils sont un gros morceau parce qu'ils jouent face à Dortmund en 16e de finale.
Tes souvenirs de gamin, toi, Daniel, par rapport à la Coupe d'Italie, Simone disait finalement tout le monde s'en tape et tout. C'était le cas aussi, toi?
Ah bah oui, ouais, mais la Coupe d'Italie, ça, c'est totalement accessoire dans le pays. C'était vraiment la Coupe de consolation. Il n'y a aucune tradition autour de cette compétition. Rien à voir avec la Coupe de France ou la Cup.
Mais est-ce que, comme dit Simone, le fait qu'une équipe comme l'Atalanta puisse la gagner, ça peut peut-être rebooster des clubs à d'autres ambitions?
Ça sera toujours pareil.
Ouais, ça peut donner des envies à des équipes qui envoient. Mais j'ai des équipes comme, je sais pas, Cagliari, qui s'est fait éliminer par l'équipe de 3e division à domicile, qui joue la Coupe d'Italie vraiment comme si c'était une obstacle pendant la saison et pas une opportunité. Voir l'Atalanta, imaginez, éliminer la Juve, aller en finale ou la gagner, ça, je pense que ça pourrait donner des envies aux autres clubs. Moi, dans les passés, une des plus belles histoires de foot italien que je me souviens, c'est le Vicenza, qui c'était la Coupe des Coupes à l'époque, donc ça avait une autre valeur, la Coupe d'Italie. Mais le Vicenza, qui arrive en demi-finale des Coupes des Coupes face au Chelsea, le Chelsea qui après gagne avec le but de Zola face à Stuttgart, mais c'est-à-dire il y avait des petites équipes italiennes qui, avec la Coupe d'Italie, arrivaient en Europe et faisaient valoir leur force en Europe. J'espère que pour l'Atalanta ça va être encore comme ça, parce que c'est pas simple pour eux aller en Europe directement avec les classements qu'ils ont en ce moment. C'est pas mal, mais c'est pas comme la saison dernière où ils ont terminé 4e.
Alors on a souvent eu le débat notamment sur la Coupe de la Ligue, hein, parce que si j'ai bien compris, la Coupe d'Italie, en gros, c'est votre Coupe de la Ligue à vous, c'est-à-dire tout le monde s'en tape. D'accord.
Oui, il y a de la Ligue là-bas, donc.
Non, mais c'est ça.
Oui,
c'est
à partir de la demi-finale, ouais, ça t'intéresse. Là, oui, t'as Lazio, oui, Milan. Mm. Quand même pour le Milan, ça peut être une façon de sauver.
Mais
sa
alors,
saison.
Alors, attends, à l'inverse, parce que on a souvent tendance à dire que ça peut engendrer une certaine dynamique. On pense au titre de Marseille, par exemple, qui avait remporté la Coupe de la Ligue et qui avait été champion de France derrière. Et puis, il peut y avoir le contre-exemple. Est-ce que ça peut pas un peu casser le rythme du Napoli, par exemple?
Non.
Bah, écoute, t'as encore deux matchs en plus. Alors, c'est vrai que Napoli doit jouer l'Europa League, et l'Europa League, en rapport à la Ligue des Champions, c'est un tour en plus. Donc, t'as deux matchs en plus dans la saison en rapport à la Juve, et avec cette élimination de la Coupe d'Italie, t'équilibres un peu ton calendrier en rapport à celui de la Juve. Mais sincèrement, c'est deux matchs en plus sur une saison des 60 matchs, 58 ou 60, à mon avis, ça change pas grand chose.
On est en Europa League.
Surtout que gagner.
Oui, non, mais je suis sûr, moi.
Oui, oui.
Je suis sûr, c'est tout pour le championnat.
Mais l'équipe d'hier, qui avait quand même 6 titulaires, 5 remplaçants, t'as vu des erreurs des remplaçants, comme Kirikes qui était.
Romario.
Mario, oui, c'est Mario, je suis d'accord. Ouais. Mais lui, maintenant, devient titulaire avec la blessure de Goulin même.
Non, mais Naples, s'ils peuvent faire la saison à 13 joueurs et tout miser ça, chaque dimanche sur le championnat, ils le feront.
Mais c'est ça le problème de Sarri, en fait.
C'est ça,
la limite, le seul défaut qu'a Sarri, à mon sens, c'est qu'il ne fait jamais tourner. Il se fait, il lui achète De Laurentiis,
mais
il va pas tourner
parce qu'il a mobilisé toute sa bande.
Chaque été, De Laurentiis lui achète des joueurs, lui achète un banc.
Surtout des jeunes intéressants qui peuvent rentrer.
Mais Valdi Fiore, par exemple, il a eu sa chance.
Valdi Fiore avait un peu la première saison. C'était parce que c'était un homme de Sarri.
Il a jamais eu sa chance.
Mais je pense à Rogue, international croate.
Bah oui, Rogue, il est excellent.
Pas souvent. Zielinski, qui à mon avis c'est un super joueur quand même, la qualité des frappes.
Il joue plus quand même cette année.
Oui, mais c'est quand même une 14e homme. Ça rentre jamais dans une vraie rotation.
Rogue, il joue jamais aussi, t'as raison. Alors que
donc,
c'est un super
moment. C'est vrai que la limite des Sarri, c'est de ne faire pas confiance tout de suite aux joueurs. Il doit expliquer son système de jeu, sa tactique, ses mouvements défensifs. Mmh. Et donc,
il a rodé l'équipe avec les mecs qui comprennent tous les mouvements, qui les font de façon maintenant automatique, habituel. Il ira au bout dans le championnat avec ça. Et il joue qui en Europa League?
Leipzig.
Qui est-ce qui arrive là? Il est chiant de fou, Leipzig.
Ouais, carrément. Il fera tourner.
Qui est-ce qui arrive en janvier? C'est Inglese,
du Kievo, même si maintenant Kievo ne veut pas les donner. Mais non, mais tu prends un attaquant pour avoir un joueur en plus.
Non, mais tu peux pas bouger cette équipe-là. Trop d'automatisme. Et ils sont trop braqués sur l'objectif. Ils vont aller au bout comme ça. Ça passe ou ils se font doubler sur la fin par la Juve. Ce sera un regret terrible.
Comme l'année dernière.
Mais bon, ils vont tenter. L'année dernière, c'est venu peut-être. Déjà à ce moment-là de la saison, on sentait que ce serait. Ils n'y arriveraient pas. Là, si tu dois miser, tu fais quoi?
La Juve. Les banques de la Juve, quand
moi,
tu
je
as
veux
des
encore quoi, mais à partir du moment où ils vont faire un match par semaine, Naples. Parce qu'ils se dirigent vers ça. Hein. Dans leur tête, ils font ça maintenant.
Ouais, après, la Juve, moi, je pense qu'ils vont plus lâcher maintenant. Les champions, face à Tottenham, je pense qu'ils vont passer, mais c'est pas
moi, j'ai envie de croire que Naples va réussir son coup.
Moi aussi, et je pense que c'est le sens de l'histoire.
Je me trompe peut-être, je veux croire qu'ils vont réussir.
Tout doit se passer bien.
L'année où
S'il y a une blessure majeure de Mertens, ou d'Insigne, Insigne est encore plus important.
Il s'est blessé, hein.
Là, c'est
ils ont réussi à gagner sans lui. Hein.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils vont tenter l'affaire. Ils vont tenter l'affaire un match par semaine. Ils prendront aucun risque.
Attends, l'année où Hamsik bat le record de Maradona de but, ce serait beau qu'il soit le champion cette année.
C'est beau.
C'est le sens de l'histoire, quoi.
Après, Juve, pour la dernière chose sur la vidéo.
Ce que j'allais dire, t'as un truc à rajouter.
Aimerait vraiment gagner les premières championnats avec la vidéo. Pour faire fermer un peu la gueule à tout le monde qui dit qu'il gagne toujours avec des aides arbitrales. Non, mais j'ai parlé avec des gens de la Juve. Et quand même, c'est une petite idée dans la tête.
Ouais, si on gagne,
mais
en Italie,
la vidéo,
c'est différent.
Vous la fermez maintenant.
En Italie, il y a une légende historique sur la Juve aidée par les arbitres.
Tiens, sachez que ça repart au Portugal à Lisbonne entre le Benfica et le Sporting. Il y a 1-0 à la pause pour le Sporting et que Porto s'est imposé à 10 contre 11 face au Feyenoord. C'est donc pour l'instant Porto est leader. Et nul doute que Sergio Conceição va loucher sur ce derby. On part non loin du Portugal. C'est un peu d'ailleurs la dépendance du Portugal. C'est l'Espagne avec Fred Hermel, bien entendu. T'es là, mon Fredo?
C'est plutôt le Portugal qui est une dépendance de l'Espagne, cher ami.
Qu'est-ce que vous nous avez mis pour
l'Atikos?
Salut, Fred.
Et bonne année, les amis.
Mais oui, toi aussi, Fredo.
C'était bien l'Écosse?
Oh là là là, puis j'ai goûté quelques petits whisky. Voilà. Ouais, mais je suis pas un grand fan normalement, mais là, j'ai coupé quelques petites choses magnifiques.
Lesquelles? À consommer avec modération.
Ah, donc tu veux dire que toi, après ce qui s'est passé le 23, t'as réussi à partir en vacances?
Oui, surtout. Ouais. Tu sais, le 23, je pensais qu'à une chose, c'était partir en vacances.
Hein. T'as visité quelle distillerie?
Tu sais, Daniel, quand on habite loin des siens, on a très envie d'être avec les siens. Là. Et tu le sais, puisque t'as de la famille en Italie. Et puis, Jonathan, t'as de la famille loin aussi. Toi, t'as de la famille au Portugal, Nico. Et
Simone, il a de la famille en Italie. Il est avec nous aussi.
Et Simone, ah bah oui, bah
tiens,
oui. C'est vrai, un peu Simone, je t'ai même pas entendu.
Tiens, Fred.
En plus, si je t'ai écouté, mais je t'ai pas calculé.
Je t'aime. Merci,
c'est ça que dans le fond.
Tu sais, dans le fond, mon préféré, c'est toi.
Oui, tu le montres.
Parce que toi, les autres, c'est des méchants. Tu vois, Daniel, au lieu de souhaiter bonne année, il me rappelle la défaite du Real. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un mauvais fond.
Oui, sauf que la bonne année, c'est déjà fait et j'ai pas besoin d'être en public pour te le souhaiter parce que ça a été fait déjà, mon grand.
Oui, c'est vrai.
Alors bon, Fredo,
je préfère les trucs personnels, mais bon, c'est pas grave.
Alors voilà, Fredo, 8e de finale aller de la Coupe du Roi aujourd'hui. Alors l'Atlético a gagné 4-0 à Lleida, victoire de Séville 2-0 à Cadiz. Un partout entre Las Palmas et Valence. Un petit mot, vas-y, ouais.
Non, mais Diego Costa, parce que il a joué ses premières minutes avec l'Atlético. Au bout de 5 minutes, il marque. Il s'est pris un coup en marquant et on a l'impression qu'il s'était fait mal au genou.
Il a marqué, s'est blessé.
Enfin, il s'est pas blessé. Enfin, il a pris un coup.
Ah oui.
Mais on a eu peur pendant 5 minutes, on se dit est-ce qu'il a pas le genou touché, tu vois, un côté ligament, quelque chose et tout, mais finalement c'est qu'un mauvais coup et il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment la hargne de Diego Costa. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ont apporté Diego Costa et Vitolo à cette équipe, quand on voit déjà la connexion, mais c'est tout con, hein, sur 2-3 actions entre Griezmann et Diego Costa, ce Griezmann il est meilleur quand il y a un vrai numéro 9 de référence devant lui. Et c'est vrai que là ça risque d'être sympa. C'est quand même dommage que l'Atlético soit pas en Ligue des Champions parce que ils auraient été vraiment beaucoup plus forts avec l'arrivée de ces deux joueurs, quoi.
Alors demain, il y aura deux autres huitièmes de finale aller de Coupe du Roi.
C'est bien.
Celta-Barça et Numancia-Real. Un mot sur le Real. Alors, il y a beaucoup de débats en ce moment autour de Karim Benzema en Espagne. Ça, on est où? Alors, on rappelle qu'il était sorti sous les sifflets du Bernabéu.
C'est la crise. Ils vont vendre tout le monde et Zidane est sur la sellette.
Alors, il a été pas mal interrogé. Tu l'as cuisiné sur le mercato d'ailleurs, Zizou. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Oui, sur Benzema. Ben oui, ouais. On va l'écouter parce que, en fait, je vais me poser clairement la question en disant, qu'est-ce qu'il en est de Benzema? Là, il est blessé. C'est vrai qu'il n'y a plus Morata et en fait, le jeune Mayoral et Zidane, le premier, je pense, pensait que Mayoral aurait pu être le remplaçant de Morata, mais sauf qu'il a que 20 ans et qu'il n'y a personne à côté de Benzema. Benzema est tout seul. Et donc il faut une doublure et voir quelqu'un qui puisse le titiller un petit peu, et ça il y a pas, et donc
tu veux qu'on l'écoute,
Zidane? Je m'attendais à ce que Zidane ferme la porte, et ben non, on va l'écouter, il ferme pas la porte.
Et ben vas-y.
On a la possibilité de faire de recruter en fait jusqu'au 31 janvier. Et il peut se passer de tout. Ce que je dis, c'est que je suis content de ma plantille. Je l'ai construit cette plantille. Donc je l'assume. J'assume mes choix. J'assume tout ce que j'ai fait. Je vais pas remettre la faute à quoi que ce soit ou si ça se passe pas bien, comme ça a pu être le cas pour certains matchs, pour certaines situations. On est encore en vie sur les trois compétitions. Et je le dis avec force et détermination.
Voilà, il est très content de sa plantilla, de son effectif, vous l'aurez compris, Zinedine Zidane, du coup.
Sauf qu'il ouvre les portes.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par ouvrir les portes?
Il y a sûrement Kepa, le gardien de Bilbao, qui va arriver, qui va être la doublure de Keylor Navas. parce que Kiko Cassia, il a pas le niveau, et qu'ils ont, il y a une réunion en Florenzo Pérez, Rosario Sanchez, directeur du général du club, et Zidane mardi, et la question de l'achat d'un attaquant dès le mois de janvier a été évoquée.
Est-ce que Keita est pas meilleur que Keylor Navas?
Keylor Navas, il a gagné deux Ligues des Champions, là, et puis il était déterminant en finale contre la Juve.
Ouais, c'est à l'instant T, là.
À l'instant T, là, il est bon, là. Il n'y a pas de problème.
Parce qu'il est pas mal, Keita aussi.
Ouais, Keita, il va être extraordinaire.
Après, c'est la pression aussi, hein, qu'il faut.
C'est ça, ouais, c'est pas mal. Assumer. Mais Keita, il est très fort. Il est très fort. C'est un gardien qui est très jeune encore et qui doit progresser et être. Puis surtout, il relâche pas les ballons, quoi. Quand il y a des frappes, c'est pas le mec qui dégage. C'est-à-dire qu'il bloque les ballons, quoi. Donc ça, c'est important dans le football. Et donc, on parlait d'Icardi. Alors, je sais pas, Simone, ce que tu en penses, toi.
C'est pas possible. Pas en janvier. C'est l'Inter lutte pour la quatrième place. Il va pas lâcher son capitaine en janvier. En juin, on va voir. Mais
elle est combien de la clause?
100, c'est monté à 120 cette année.
Ouais, mais pour le Real, ils sont pétés de thunes, ils n'ont rien dépensé depuis 3 ans.
Non, mais c'est pas un problème de clause, c'est un problème de voir, ouais. C'est un joueur qui... Bah, bien sûr, quand le Real, c'est le Real, mais.
Ouais, mais tu dis, et en plus, il peut jouer la Ligue des Champions, tu dis.
C'est étonnant, j'ai envie de dire.
Mais attends, important. Fredo, parce que visiblement, ils ont besoin d'un gardien, ils ont besoin d'un avant-centre, alors aussi.
Oui, c'est pour ça. Il ouvre la porte à un avant-centre, Zidane, aujourd'hui, c'est clair. Parce que moi, la question que je lui pose, à laquelle ce qu'on a entendu, c'est par rapport à Benzema, sa situation, etc. Donc, ce n'est pas parce que, alors, le problème qu'il y a aussi, c'est que tout le monde sait très bien que tant qu'il y aura Zidane, Benzema sera titulaire. Donc, ça peut refroidir aussi cet attaquant. Mais à un moment, ça peut changer.
On peut discuter de ça 2 secondes. Étant donné la situation, et il s'agit pas d'effacer toutes les très belles saisons que Benzema a accomplies au Real. Là, aujourd'hui, clairement, ça marche pas. Il y a un problème. Tu crois que Zidane, même s'il adore, il le défend, enfin, jusqu'où il
va être?
En même temps, c'est un compétiteur. Il est habitué à la haute compétition depuis toujours. Ouais. Jusqu'à quand il va lui tenir la main?
Et Zidane l'a dit clairement. Je défendrai Benzema hasta la muerte, jusqu'à la mort.
Ok, mais hasta la muerte, ça c'est au final ça s'est jamais vu.
Je sais pas quelle est
il fait quoi. Ça veut dire demain s'il prend pas. Imagine là avant le 31 janvier, il prend un avant-centre. À l'entraînement, l'avant-centre est bon. Il le tente pas. Il continue de voir son joueur se faire siffler par le public.
Non, mais il va le tenter. Mais après,
c'est bizarre quand même.
Il y a trois compétitions: la Coupe, la Liga, la Ligue des Champions. Mais les gros matchs, c'est Benzema qui va les jouer.
Non mais. Ok, après, très bien. Même l'année dernière, il est plus aussi étincelant, et contre l'Atlético sur une action, il fait une diff dont on se souvient tous. Cette année, c'est encore plus difficile, et puis il y a un vrai problème avec le public.
Le public, retourne de toute façon. Ils ont sifflé Cristiano.
Il le retournera aujourd'hui comme étant des buts qu'il ne met pas. Jusqu'à, je veux dire, le problème va quand même se poser. S'il prend un autre avant-centre et que cet avant-centre est bon. Et puis si cet avant-centre vient, non mais Fred, si cet avant-centre est bon et que Zidane, parce qu'il doit défendre l'autre comme tu nous le dis jusqu'à la mort, mais aucun avant-centre ne va venir. Aucun avant-centre ne viendra tant que Benzema est là dans ce cas-là.
C'est pas une question de dogme, c'est une question que lui estime que le jeu du Real est meilleur avec Benzema.
Dans ces cas-là, aucun avant-centre ne signera.
Et ça c'est intéressant.
Aucun avant-centre ne va signer si Benzema est là, parce qu'il sait que l'autre va le défendre jusqu'à la mort. Ça tient pas la route, ton affaire.
Et d'ailleurs, Fred, est-ce qu'il y a des noms qui circulent déjà?
Tu m'as pas écouté, puisque j'ai expliqué que le frein à la venue d'un grand avant-centre aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que Benzema va jouer avec Zidane. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui a assez la force de dire je vais pas tout jouer, mais je vais me défoncer et je vais montrer quelque chose.
Fred, est-ce qu'il y a des noms déjà?
C'est un avançant de seconde catégorie.
Alors justement, est-ce qu'il y a des noms déjà qui circulent?
Oui, peut-être.
Donc au mois de juin, il n'y a pas la piste Icardi, il n'y a rien.
Mais on verra au mois de juin. Là, je te parle du mois de janvier, Daniel. Mais tu sais très bien.
Hasta la muerte, il va jusqu'où alors? C'est hasta la muerte au 31 janvier.
Si tu sais très bien que le Real... Attends, là, on parle du mois de janvier. On fait l'émission tous les jours, Daniel.
Non, mais Fred... Et sinon, prendre un peu de hauteur. Quand tu dis, il le défend jusqu'à la mort. La mort, c'est le 31 janvier.
C'est la mort du jour, en fait. C'est la mort du jour, quoi.
Mais là, on parle...
C'est pas très clair.
Mais attends, tout dépend. Daniel, tu sais très bien comment ça marche. Si le Real gagne la Ligue des Champions, il n'y aura pas beaucoup de changements. Si le Real ne gagne ni la Ligue des Champions...
Moi, je pense que justement...
Il y aura une grosse révolution à la fin de l'année. à la fin de la saison. Et tu le sais, parce que c'est comme ça que ça marche au Real.
Quand il y a tu veux dire, le Real n'est pas champion, ce qui est quand même probable. Et le Real gagne pas la Ligue des Champions, ça reste à démontrer, parce qu'ils sont toujours bons dans cette compétition.
Là, il y aura des changements.
Là, il y a des changements. Mais est-ce que les changements, mais alors les changements, c'est de faire partir Benzema, mais tu me dis que l'autre, il le défendra toujours.
Oui. Mais qui te dit que Zidane sera encore l'année prochaine s'il gagne rien?
Ah, je sais pas, Florentino Pérez, c'est assez à la marque aussi.
Mais c'est pas Florentino Pérez, c'est Zidane lui-même. Zidane qui ne gagne rien, qui estime qu'il peut pas continuer, il s'en va.
Bon, donc, Zidane, il va pas estimer ça.
Bon, bah écoute, fais-moi confiance des fois. Je te dis que Zidane, là, il ne voit que jusqu'à la fin de la saison. Il ne voit pas plus loin, je peux
dire. Genre, si jamais, avec ce qu'il a déjà fait au Real, en aussi peu de temps, il gagne rien cette année, il dit je m'en vais.
S'il estime que lui, ça, il peut pas améliorer les choses, il partira.
Ah, il peut les améliorer en renouvelant un peu un effectif qui a tout gagné et qui a besoin d'être acheté, rafraîchi.
Moi, je te donne des informations. Je te dis que Zidane ne regarde pas au-delà du mois de juin.
Oui, mais ça, c'est logique, ça.
Ben oui, parce que c'est un mec comme ça, c'est un mec qui vit au jour le jour. Et c'est ça qui est bien avec ce type-là, c'est qu'il a pas un plan de carrière, etc. Il vit chaque moment avec intensité.
Quel plan de carrière veux-tu qu'il ait ? Il est au Real. Quand t'es au Real,
un petit mot également sur un autre Français. Alors on l'avait évoqué hier, son cas, le cas d'Ousmane Dembélé. Alors il est de retour, il a repris l'entraînement avec le Barça. Il est dans le groupe ou pas pour le match demain face au Celta ?
Il est dans la liste. Il est dans la liste pour aller en coupe au Celta, à Vigo contre le Celta. Donc on va voir, ça dépend un peu comment va se dérouler la rencontre, mais on peut imaginer qu'il va jouer quelques minutes demain. Si ça se passe bien, Dembélé. Après, Dembélé, je pense qu'il faut pas être trop exigeant avec lui, parce que son intégration, elle n'existe pas encore. Il a joué 3-4 matchs, il s'est blessé à Rétafé. Donc, je pense que c'est une année où...
Et puis, il arrive dans un Barça qui marche déjà très bien.
Ben voilà, très bien. Et après, la question du système, parce que là, comme il n'y a plus Neymar et Dembélé était blessé, il y a souvent un 4-4-2 qui a montré, on l'a vu avec la victoire 3-0 sur la pelouse du Real dans le Classico le 23 décembre.
Ah oui, j'avais oublié ça.
T'avais oublié, attends, je te rappelle au cas où, que ça marche bien ce système-là.
Et si Coutinho arrive en plus, il va.
Mais je pense qu'il faut. Et là, il ne faut pas que les gens attendent que Dembélé soit performant tout de suite. Le type, il vient d'arriver là, parce qu'il a été blessé. Donc, il n'est pas intégré encore. Donc, il vient d'arriver, il va y aller tout doucement. Et je pense qu'on pourra vraiment juger Dembélé la saison prochaine.
Mais il va jouer si Coutinho arrive
bien cette année. Tout ce qui aura de bien cette saison, ça sera que du plus. Mais il faut être patient avec lui, c'est évident.
Et Jonathan,
la grande chance qu'il a. Et la grande chance qu'a Dembélé, c'est qu'il y a un super entraîneur au Barça qui va pas faire n'importe quoi avec lui, qui s'appelle Ernesto Valverde.
Jonathan,
il va jouer si Coutinho arrive.
Mais on verra. Ben attends, c'est 180 millions, c'est le plus grand, la rue la plus chère de l'histoire du Barça. Ouais. Mais Dembélé, c'est pas pour manger tout de suite. Tu sais, c'est pour emporter. Mmh. C'est pour grandir. C'est un jeune joueur. C'est l'avenir aussi. C'est-à-dire que Neymar était considéré comme l'avenir au Barça, il n'est plus là. Donc, ils ont misé sur un jeune joueur avec beaucoup de talent qui sait, dans un club bien structuré et avec un super entraîneur, va peut-être prendre une dimension extraordinaire. Donc, il ne faut pas dire que Dembélé au Barça, ça ne marche pas s'il ne joue pas tous les matchs. Voilà.
Parce que surtout à son âge, oui.
Surtout à son âge, surtout avec ce qu'il vient de vivre, et surtout, vous avez raison de préciser, dans une équipe qui fonctionne bien dans un autre système que celui qu'on a connu jusqu'ici.
Merci beaucoup, Fredo, d'avoir été avec nous.
Merci les amis.
Bonne soirée,
je vous souhaite vraiment plein de belles choses.
Merci à toi aussi, Fred. Une belle année à toi. À très vite, Fredo. Et nous, dans quelques instants, on sera avec Philippe Auclair. Il a assisté au derby, au match de cette soirée. Le match entre Chelsea et Arsenal. C'était même Arsenal-Chelsea d'ailleurs. Deux buts partout. Comment il a vécu ça, notre Philippe Auclair? La réponse juste après ça.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et on est toujours avec Jonathan McCardy, avec Daniel Riello et avec Simone Rovera. On vous rappelle les principaux résultats de cette journée. De partout entre Arsenal et Chelsea. Victoire de la Juve face au Toro, quart de finale de Coupe d'Italie. Il y avait de la Coupe d'Espagne également. L'Atlético a gagné 4-0 à Leida avec notamment un but de Griezmann, un but de Diego Costa également. Au Portugal, il y a un derby entre le Benfica et le Sporting. On est à la 58e minute de jeu. Le Sporting mène 1-0 et Porto s'est imposé dans la douleur à Feyenoord. 2-1, on retourne du côté de Londres. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe.
Salut Nicolas, salut à tous et à toutes.
Ciao.
Salut Philippe. Ciao Philippe.
Et Philippe qui a donc assisté à ce match extraordinaire entre Arsenal et Chelsea. Quelle intensité Philippe. J'imagine que là, tout le monde est en osmose en débriefant ce match dans les télés anglaises, etc.
oui, on est tous épatés par ce qu'on a vu. C'est pas seulement le scénario, parce que tu te souviens, on avait vu un 3-3 également entre Arsenal et Liverpool ici, mais qui laissait un petit peu sur sa fin au niveau technique. Et là, par contre, on a vu des choses absolument magnifiques. On a vu des choses horribles du côté défensif d'un côté comme de l'autre, particulièrement du côté d'Arsenal. Mais on a vu aussi un spectacle de très très haute qualité. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que on aura certainement vu ce soir les meilleures performances de Thibaut Courtois et de Peter Cech cette saison, alors qu'ils ont quand même encaissé 4 buts à eux deux. Donc ça en dit long sur la qualité du spectacle qu'on a vu et bon qui lance cette année superbement. Je vais vous dire, là, ayant parlé avec quelques-uns des acteurs de ce match, il y en a beaucoup qui se demandent un petit peu quoi en penser. Il y a une exception, c'est Arsène Wenger qui était encore une fois absolument furieux. Je ne sais pas si vous avez pu voir sa réaction.
Justement, alors attends Philippe, puisque tu es en train d'en parler, vous savez qu'il y a eu ce fameux penalty qui a été transformé par Eden Hazard pour une faute de Bellerin dans la surface de réparation. Et tu l'as interviewé effectivement à l'issue du match, Arsène Wenger. On va écouter sa réaction, c'est au micro d'SFR Sport.
Sur l'ensemble, je pense qu'on a payé un peu physiquement les 20 dernières minutes, on a pioché un peu, on est revenu au mental et une fois de plus on a été victime d'une décision d'arbitre vraiment qui sort de derrière les fagots, mais il faut vivre avec, c'est une farce.
Ah, c'est une farce, dit Arsène Wenger concernant donc ce penalty. Il était vraiment énervé, Philippe ?
Oui, vraiment très très énervé. Il faut qu'il fasse attention parce que vous savez qu'il a déjà été, comme il a déjà reçu une punition de l'AFA pour avoir parlé de la décision dans le match contre West Brom. Bon, la décision dans le match contre West Brom était absolument aberrante et il y avait de quoi être furieux. Ce soir, c'est quand même, bon, même si jamais Eden Hazard en remet une petite couche, même s'il doit bien peut-être avoir pénalty sur une faute de Victor Moses sur Maitland Niles plutôt dans la rencontre, je pense pas que c'est ça qui explique, qui donne la vérité du match. La vérité du match, c'est qu'on a vu deux équipes qui ont attaqué à fond, qui se sont créées énormément d'occasions, deux gardiens qui étaient au top, un spectacle absolument magnifique et une super page de pub pour la Première Ligue au passage. Mais deux équipes qui font aussi une mauvaise opération dans le contexte actuel, parce que bon, tu regardes les résultats de cette 22e journée, je pense que c'est encore la 22e, je suis un petit peu perdu parce qu'il y a des matchs dans tous les sens.
Il y en a tous les jours.
Tu vois Manchester City qui gagne, Manchester United qui gagne, Liverpool qui gagne, Tottenham, ils vont jouer demain contre West Ham, mais a priori ça devrait le faire. Et Chelsea et Arsenal, ils perdent deux points ce soir qui pourraient être précieux dans le cadre de cette course au top 4, et en particulier pour Arsenal, parce que là, ça commence à faire loin. Hein. Ça commence à faire très loin, même. La période des fêtes a été bonne au niveau des performances, mais mauvaise au niveau des résultats.
Et il y a eu de la casse, en plus. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs blessés. Et c'est vrai que le niveau de jeu était quand même moins bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de managers qui ont poussé la gueulante. Pep Guardiola, le premier, d'ailleurs, qui avait perdu...
Avec raison.
Voilà. Et De Bruyne et Jesus. Alors, De Bruyne qui est vite revenu, finalement.
Oui, mais De Bruyne est revenu. Bon, c'est Superman, c'est l'homme de Lyonie.
Vas-y Daniel.
Non Philippe, oui. J'ai entendu les plaintes de ces entraîneurs et plus ils seront nombreux, plus ils seront entendus et comme ils sont étrangers, ils ne sont pas habitués à la tradition anglaise. Mais quelque chose va pouvoir changer alors que la tradition a toujours voulu que ce soit comme ça en Angleterre.
Je pense que cette année c'est différent. En ce sens qu'il y a eu un tel étalage des matchs. On a commencé un vendredi soir, le 22 décembre, avec ce Arsenal-Liverpool. On va terminer ça demain soir avec Tottenham-West Ham. On a eu des matchs quasiment tous les jours. Et au niveau de l'équité sportive, franchement, ça ne la fait pas, parce qu'il y a des clubs qui sont passés entre les gouttes et qui ont eu le temps de récupération, d'autres qui n'ont absolument pas eu. C'est le cas notamment de West Brom, c'est le cas d'Arsenal. Il n'y a pas que les Français et les étrangers qui se soient plaints. Il y a également, par exemple, Alan Pardew s'en est un, avec raison à mon avis, quand tu as moins de 48 heures pour récupérer.
Ah bah oui, non, mais ça, de toute façon, normalement, c'est 3 jours. Donc effectivement, c'est un peu bizarre.
On n'était pas du tout là-dedans.
On n'était pas
dans
les 3 jours.
Oui, mais c'est ça le problème. Et je crois qu'il va falloir revoir.
Non, mais c'est... Qu'est-ce qui serait revu alors ?
On a mal interprété ce qu'a dit Guardiola. Excuse-moi Daniel, mais on a mal interprété ce qu'a dit Guardiola. Parce que ce que Guardiola a dit, il n'a pas du tout dit il faut faire sans cette période des fêtes. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il
faut... l'organiser.
Il faut protéger les joueurs.
Oui, mieux la gérer. Il faut protéger
les joueurs. Non, mais ça, je comprends. Effectivement, qu'il y ait 3 jours minimum, qu'il y ait peut-être un match en moins, ça, je comprends. Je pensais, moi, que c'était carrément l'histoire, parce qu'il y en a un, et je crois que c'est compté. C'est carrément, genre, il faut une trêve. Et ça, dans la tradition anglaise, ça n'existe pas. On va pas revenir là-dessus.
Mais la trêve, on pourrait très bien l'avoir à la fin du mois de janvier, début du mois de février, ça ne ferait aucune différence, c'est pas un problème. Ça ne toucherait pas à la grande tradition du foot anglais qui demeure et qui est, c'est une des fondations du foot anglais, c'est que tu as du football, tu peux faire une orgie de football pendant les fêtes, et c'est magnifique, tout l'univers...
Mais il y a moyen de le faire avec 3 jours de repos entre les matchs, quoi.
Oui, absolument. Parce que là, c'était du grand n'importe quoi. Hein. T'as qu'à voir.
Moi, j'étais complètement perdu dans les journées de championnat.
Nous, on est comme eux, on est cramés. Hein. Donc, on a suivi tout le truc.
Moi, tu vois, je t'avouerais, tu me demandes quel jour nous sommes aujourd'hui. J'en ai pas la moindre idée. C'est un mercredi ou jeudi, je suis pas trop sûr. Parce que on est dans cette logique du match après match après match après match. Bon, on a été gâtés, hein. On va pas se plaindre. On a vu du très très beau spectacle par moment. En plus de ça, la fatigue, ça aide à créer du beau spectacle. Ça crée des espaces. Mais c'est vrai qu'il y a un débat. Le débat est lancé, comme il l'est tous les ans.
Ouais, mais qu'est-ce que disent les gens, Daniel, qui prennent les décisions? Parce que une fois que les entraîneurs ont parlé, c'est une chose. Mais les gens de la ligue, ils disent quoi?
Eh ben, ils disent que c'est fini. Eh ben voilà. Tu vas pouvoir les proposer, Philippe. Voilà.
Mais c'est simple. Et moi, je dirais, je crois qu'on en reparlera. Si les choses se passent un petit peu moins bien que ce que l'on espère en Ligue des Champions, si tu as quatre clubs anglais sur 5 en quart de finale, on ne reparlera pas de cette histoire de trêve hivernale.
Merci,
si
Philippe.
Par contre, tu en as 3 qui se ramassent, on en parlera. Eh bien, bonsoir à vous les enfants.
Merci Philippe, bonne soirée à toi. Bonne nuit, Philippe.
Ciao, ciao.
Merci Jonathan Macardy. Merci Simone Rovera. Merci Daniel Riello. Merci à tous.
À demain.
Merci, c'est gentil. Alors, merci toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission, les équipes éditoriales aussi, Flavien et Cyprien. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.